Vous écoutez Logosphère, l'émission de reportages et d'entretiens, de rencontres et de réflexions. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est Logosphère sur les ondes d'univers. Vous écoutez Logosphère sur les ondes d'univers 99.9 et le www.radio-univers.com. Pour cette édition de Logosphère, nous allons nous intéresser au gallo, la langue gallo, langue galloise, qui historiquement est parlée en Haute-Bretagne, et nous allons nous y intéresser avec Léonie. Léonie, bonjour.
Bonjour.
Léonie qui nous a proposé et réalisé cette série d'entretiens autour de la langue galloise. Léonie, tout simplement, pour commencer cette édition, de quel sujet parle-t-on ? Qu'est-ce que la langue galloise ?
Alors, on parle du gallo, donc la langue galloise, c'est la deuxième langue de Bretagne, qu'on parle en Haute-Bretagne, plus ou moins de Ploie à Guérande. Donc là où le breton, c'est une langue celtique, le gallo, c'est une langue romane, donc qui tient plutôt du latin, et qui fait partie des langues d'Oïl, qui sont les langues de la partie nord de la France, en opposition avec les langues d'Oc, qui sont situées au sud d'une sorte de frontière linguistique qu'on peut situer au niveau du Massif central. Au nord de cette frontière, donc c'est les langues d'Oïl, au sud, les langues d'Oc. Le gallo, c'est une langue orale à la base, même si elle est écrite maintenant, qui a longtemps été étiquetée comme un patois, donc un dérivé du français correct. Tandis qu'en fait, c'est une langue à part entière, avec ses règles de grammaire. Et tout ça, vous allez pouvoir mieux le comprendre en écoutant le premier
durant
reportage.
Durant cette série d'entretiens. Oui. Tout simplement, une question, pourquoi s'être intéressé cette langue traditionnelle de Haute-Bretagne ? Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce sujet ?
Ben moi, le gallo, du coup, c'est la langue de mon enfance. C'est la langue que parlaient mes grands-parents. Donc pour moi, c'était complètement intégré à mon univers linguistique et je n'ai jamais vu ça comme une langue en étant enfant. On n'en parlait pas. Je pense que c'était assez considéré comme un patois, enfin, ou en tout cas une manière détournée un peu de parler le français. Donc j'avais intégré des mots dans mon lexique, comme bouiner par exemple, mais je n'ai jamais réfléchi à leur provenance. Et en comprenant plus tard du coup... la dimension historique du gallo, et en comprenant que c'était vraiment une langue, je me suis intéressée du coup à sa dissolution, à sa disparition. Et j'ai compris que du coup cette disparition, c'était pas qu'une disparition linguistique, c'était aussi une dissolution, une disparition de quelque chose de plus vaste et de plus ancien, donc un monde quotidien.
Il me semble, par exemple, que tu as eu des difficultés, peut-être plus ou moins, à trouver des interlocuteurs.
Oui, il y avait des gens qui ont refusé de passer à la radio ou d'être enregistrés parce que c'était, pour eux, c'était vraiment pas évident que ce soit une langue qui puisse être diffusée, en fait. Que c'était beaucoup trop intime, que c'était un peu honteux, presque encore, quand même énormément dans les habitudes, en tout cas, de penser. Donc il y a des personnes qui ont refusé de...
D'accord.
S'exprimer.
Mais par ailleurs, tu as trouvé des interlocuteurs et interlocuteurs, notamment, et interlocutrices qui, justement, eux, se font porteurs de cette langue et qui veulent la pérenniser ou la diffuser.
Oui.
Est-ce que tu pourrais nous dire, justement, qui est-ce que tu as rencontré ?
Donc, tout de suite, on va entendre, du coup, l'interview que j'ai réalisée avec Patrick Dariano, qui est, elle, plutôt orientée sur la linguistique et l'aspect historique, pour qu'on puisse bien situer le contexte du gallo. Donc Patrick Dariano, c'est quelqu'un qui a écrit des ouvrages sur la langue, notamment une grammaire, et qui fait souvent des traductions de livres en gallo, qui s'inscrit dans une lignée de... En tout cas, pour perpétuer le langage, quoi, et l'installer dans l'univers linguistique. Ensuite, pour la partie un peu plus intime, du coup, j'ai enregistré ma grand-mère, Rosalie, qui raconte sa vie à la ferme. Donc à ce moment-là, la langue gallo, c'était la langue qu'elle parlait dans cet univers-là, parce que c'est quand même une langue qui est très reliée à des gestes de la terre et à un univers rural.
Donc tout un contexte dans lequel le gallo était utilisé et pratiqué.
Et puis ensuite, j'ai également réalisé un entretien avec Daniel Robert et Roger Le Cantou, qui sont deux conteurs en gallo et qu'on entendra demain.
Très bien. Eh bien, c'est noté. On va écouter tout de suite donc cet entretien avec Patrick Deriano.
Oui.
Une interview réalisée à Lamballe, me semble-t-il.
Non.
Ah.
À Josselin.
À Josselin.
Pardon, donc, Josselin.
Très bien. Eh bien, on écoute tout de suite dans Logosphère sur les ondes d'Univers 99.9.
Alors, je suis Patrick Deriano. Patrick Deriano, c'est le nom gallo pour Patrice Dreano, qui est mon nom d'état civil. Je suis sorti de Cœurdin. Cœurdin, c'est le sépare entre la Haute et de la Basse-Bretagne, mais du côté de la Haute, du coup, mais Yuxakause gallo. Alors, le pays gallo, c'est la moitié de la Bretagne. C'est-à-dire, c'est la partie est, la partie orientale de la Bretagne. Donc, au niveau des départements, ça fait le département d'Ille-et-Vilaine, le département de Loire-de-Bretagne, officiellement appelé Loire-Atlantique, mais que moi j'appelle Loire-de-Bretagne, parce que le 44, c'est quand même en Bretagne, depuis toujours. Et la partie est, donc des côtes d'Armor et du Morbihan, en gros à l'est de la ligne Ploua-Ambon.
Donc en dehors de cette zone-là, on ne parle pas gallo.
Ah, donc à l'ouest, on parle breton.
Et à l'est?
Ah ben en dehors de la Bretagne, dans le Maine, ils parlent Méniao, en Anjou, ils parlent Angevin, au sud, ils parlent Poitevin, ils appellent ça d'ailleurs le Parlange. Et plus si on va vers la Normandie, le bas de la Normandie parle encore un langage qui est assez proche du gallo. Hein. Et par contre, plus haut, il y a ce qu'on appelle la ligne Jaurès, c'est-à-dire la ligne du K, c'est-à-dire là où le che devient que, là ça devient vraiment du normand. Quoi. Par exemple, je crois que un chasseur, nous en gallo on dit un chassou, et en normand je crois que c'est un cacheur. Et, enfin, ils me rectifieront si j'ai menti, mais enfin je pense que c'est quelque chose comme ça.
Et donc du coup, si on prend une carte, tout ce qui est situé aux abords de la Bretagne, au niveau linguistique, ça correspond à un mélange entre le gallo et un autre patois.
Mélange, j'aime pas trop ce mot-là, mais enfin, disons que c'est plus proche, je dirais, du français central, quoi, un petit peu plus proche du français central. Mais bon, tout ça, de toute façon, était assimilé sous le terme patois. Ça, c'est clair, tout ce qui différencie un petit peu du français est assimilé en France sous le terme patois. C'est un terme générique, mais qui ne veut pas dire grand-chose, finalement. Quoi.
L'histoire de la langue gallo, cet univers linguistique-là, si on remonte dans le temps, ça donne quoi?
Le gallo vient principalement du latin. Mais en Haute-Bretagne, on a aussi parlé breton. Jusqu'à peu près le 12-13e siècle, pratiquement jusqu'au 12-13e siècle, à peu près aux portes de Nantes et de Rennes. Pas tout à fait quand même. Enfin, et au cours du 13e, principalement entre le 13e et au 15e, voire 17e siècle, la langue a beaucoup reculé. La langue bretonne, je dirais, a beaucoup reculé et a laissé la place au gallo. Mais ce gallo a été influencé quand même par le breton un petit peu. Même si c'est de moins en moins au fil des siècles, mais il y a quand même eu une influence, quoi. Tant au point de vue grammaire qu'au point de vue phonétique, qu'au point de vue lexical. En Gaule, on parlait donc finalement de ce qu'on appellerait en gros le gaulois, mais ce que les linguistes appellent le celtique continental. Et les Romains sont arrivés, donc il y a une première romanisation. Vers le 5e siècle, les Celtes de Grande-Bretagne, c'est pour ça que ça s'appelle la Grande-Bretagne, alors parce que c'était le territoire des Bretons à l'origine, sont descendus sur l'Armorique et ont receltisé la Bretagne, qui est à base par les Gaulois. Mais entre-temps, il y a quand même eu du latin un petit peu à venir, qui commençait à dessiner un petit peu la langue romane. Donc le breton arrive, et donc l'Armorique est receltisée, puis peu à peu, elle est à nouveau romanisée. Sauf que la partie occidentale, elle, reste bien celtique.
Quand on étudie du coup cette langue, si on remonte dans l'histoire, on se base sur quoi?
Le gallo a été écrit assez tardivement. Je dirais que de ce point de vue-là, c'est une langue moderne, mais je veux dire historiquement, à partir du moment où il est écrit tardivement. Le premier texte qu'on trouve de Gallo, le texte de Gallo moderne, le plus ancien, c'est un texte contre-révolutionnaire de 1792. Et là, on peut dire que c'est vraiment du Gallo, proche du Gallo contemporain.
En tant que linguiste, quand on étudie l'historique des langues, vu que la plupart des documents étaient écrits en latin, comment on a ces traces-là ? Comment on accède à ça ?
Disons que, je vais donner un exemple, un mot comme l'eau, l'eau qu'on boit. Là. On a deux mots en gallo. On a l'ève et on a l'iau. Ève vient directement du latin. Donc c'est du latin agua quoi, qui est venu certainement dans les premiers siècles de notre ère. Et ensuite, donc, iau et correspond au français « o », et lui vient d'une deuxième romanisation. Et donc là, en fait, on a deux, historiquement, on a deux couches qui se superposent. Bon, tout ça, ça fait du gallo, mais la source est un petit peu différente. Il faut comprendre aussi que c'était la langue du peuple. Or, le peuple n'écrivait pas. Les gens savent écrire depuis un siècle ou deux, pas beaucoup plus. Depuis l'école, quoi, finalement. Donc, et les gens d'un certain rang parlaient plutôt français, quoi, puisque le français est la langue de la culture. Depuis le Moyen-Âge, c'est considéré comme la langue de la culture. Donc le gallo était délaissé, puisqu'il était laissé au peuple, qui lui n'écrivait pas. Donc la transmission s'est faite oralement, de génération en génération. Par contre, là où on trouve du gallo écrit, alors je cherche beaucoup ces temps-ci là-dessus, c'est dans la presse ancienne du début du XXe siècle. En particulier dans la presse de Loire-de-Bretagne, autour de Guérande, souvent sous l'entête de rubrique « Propos du terroir ». Et puis en fait, on a des sources intéressantes, quoi, parce que ça donne une idée du parler local.
Il y a plusieurs gallos selon les zones.
C'est-à-dire que, oui, mais le breton c'est pareil, à peu près toutes les langues ont des variantes. Il n'y a qu'en France qu'on voit le monde de manière uniforme, mais en fait, c'est une uniformisation artificielle, quoi.
C'est une langue qu'on n'apprend pas à l'école ?
Pas qu'on n'apprenait pas à l'école, non, c'est vrai qu'on n'apprenait pas à l'école. Maintenant, il commence à y avoir quelques...
Et qui est, en plus, interdite, a priori ?
Qui était, interdite, méprisée. Méprisée, alors déjà, tout ce qui était, c'était sous le vocable de patois, et tout ce qui est patois, je dirais, considéré aussi comme français déformé. C'est souvent ça qui revient, le terme français déformé. Ce qui est archi faux. Dire que c'est du français déformé, c'est une fake news entretenue depuis plusieurs siècles par les classes dominantes pour légitimer intellectuellement leur domination sociale et politique.
Parce qu'au niveau linguistique, au niveau des racines de la langue, ça n'est pas le cas, quoi.
Ah non. Des fois, on est même plus près du latin que le terme français.
Hein. Vous, votre histoire par rapport au gallo, c'est...
Alors, moi, je suis né en ferme. Et en ferme, dans les années 50, tous les âges étaient encore à la maison. Il n'y avait pas de maison de retraite pour les anciens à l'époque. Il faut se remettre dans le contexte. Et donc, tout gamin, moi, j'étais gardé par ma grand-mère pendant que mes parents allaient travailler au champ. Et donc, j'ai appris le gallo avec ma grand-mère, principalement. Et donc, par la suite, j'étais à l'école. Et c'est... Dans les années 70, il y a quand même un revival, si on veut, des langues régionales, quoi. Le breton et tout ça, quoi. C'est quand même les moments où on entend comment il y avait Stivell, Serva, etc., Glenmore, voilà. Et donc il y avait un renouveau, quoi, donc des cultures populaires. Et moi, à l'époque, j'étais en lycée à Pontivy, donc avec des bretonnants, quoi. Et alors, moi aussi, je me sentais breton, mais pas breton de la même façon. Et j'avais commencé à noter déjà à l'époque quelques mots de gallo, quoi, comme ça. Je me rappelle, c'était sur une feuille de cahier. Et j'avais noté des gallo dessus, et j'ai toujours gardé cette feuille-là. Quelques mots de vocabulaire, quoi, sans faire attention, puis c'était un peu resté de côté. Je me sentais quand même attiré par ça. Et j'avais été voir un ancien qui voulait bien m'apprendre des mots, très bien. Et donc, c'est là que ça a été le déclic pour moi. Parce que c'est d'une chose que je n'avais même pas remarqué. Un participe adjectif en « e » avait son féminin en « e ». Par exemple, il est éveilleux, et au féminin, olé éveillé. Et là, je me suis rendu compte, ah mais oui, mais attends, c'est pas du français déformé, ça a des règles de grammaire. Donc je me dis, s'il y a des règles de grammaire, c'est donc que c'est une langue, logiquement. J'ai publié une grammaire en 2004 qui fait 876 points de grammaire.
Donc à votre avis, cette grammaire-là, comment elle apparaît ?
Ça se fait au cours des âges, hein, par les gens eux-mêmes d'ailleurs. C'est justement là qu'on voit le génie du peuple quelque part. Sans s'en rendre compte, il crée des règles, comme on trouve ça en breton, on sait, avec les mutations, quoi. Hein, chien se dit qui ? Le chien a ri. Ils auraient pu dire hiérarchie. Mais toutes les langues sont une forme de génie, quelque part, quoi. Toute langue a sa logique qui paraît incroyable vis-à-vis d'un locuteur d'une autre langue, mais c'est comme ça, quoi.
Est-ce que c'est une langue qui s'utilise encore actuellement ? Est-ce que c'est possible de parler gallo dans le nouvel environnement dans lequel on vit ?
C'est une langue qui était adaptée au monde agricole, donc est-ce qu'il peut encore s'adapter au monde contemporain ? Je vois par exemple aérodrome. Ah, comment traduire aérodrome ? Voilà un mot bien moderne. Eh bien, figurez-vous que j'ai découvert c'est le nouvelliste du Morbihan, je crois, en 1915, en pleine guerre, je retrouve un article en gallo et le rédacteur dit comme ça que les Français ont attaqué une aéroplate près de Metz. Et effectivement, ils avaient bien attaqué un aérodrome près de Metz, quoi. Une aéroplate. Voilà, c'est des choses qui sont créées naturellement.
Vous avez noté un sentiment un peu de rejet de la part de la génération de vos parents par rapport à cette langue-là ?
Ça reste la langue, je dirais, de l'intime, quoi, d'un certain milieu. Et puis, quand on sort de ce milieu, on ne l'emploie plus. Ça, s'ils vont aller voir le médecin, le notaire, etc., ils ne vont pas parler gallo, parce qu'automatiquement, ça les dévalorise, ils le savent d'ailleurs. Devant leurs enfants, tout le monde a envie que ses enfants progressent socialement. Or, s'ils doivent rester avec la langue qui représente quand même un niveau social dévalorisé, ils ne voudront pas que leurs enfants soient dévalorisés, donc ils feront en sorte qu'ils ne parlent plus la langue qu'ils parlaient, quoi.
Qui parle gallo maintenant ?
Qui parle gallo ? Ben les galaisans. Quelle question. Bon, je plaisante. Qui parle gallo ? Alors ça, c'est difficile à dire. Officiellement, selon un sondage, il y aura encore 200 000 locuteurs de gallo en Haute-Bretagne. Au niveau scolaire, on a une association qui s'appelle Classier et qui fait en sorte que les enfants du primaire puissent apprendre le gallo. Alors, moi, je dirais que je suis ce qu'on appelle un terminal speaker, c'est un locuteur de la dernière génération, parce que je ne l'ai même pas transmis à mes enfants. D'ailleurs, ma femme ne parlait pas gallo non plus. Ça devient difficile. J'espère le transmettre à mes petits-enfants, mais ça, je ne sais pas.
Si vous, juste comme ça, émotionnellement parlant, à votre avis, cette langue-là, elle s'évanouit, qu'est-ce qui part avec elle ?
Ah bah c'est tout un, je veux dire, c'est toute une facette de ce diamant qu'est l'universel, puisqu'on est sur Radio Univers, c'est ça. Parce qu'aucune langue en elle-même n'est universelle, mais toutes participent à l'universalité, parce que chacune exprime des modes de pensée d'une communauté. Alors et finalement l'universel, c'est ça, c'est un diamant avec autant de facettes qu'il y a de langues, quoi. Donc plus il y a de facettes, plus ce diamant a de valeur. Le gallo, comme toutes les langues, participe à l'universalité.
Et qu'est-ce qu'elle représente, cette facette ? Si le gallo est une facette, qu'est-ce qu'il y a dans cette facette-là ?
Ah, qu'est-ce qu'il y a dans cette facette ? Vous savez, il y a l'expression de modes de pensée qui leur sont propres, hein. Bon, allez, pour un exemple qu'on ne va pas trouver, je crois pas, dans une autre langue, il frappait violemment, quoi. eh ben on pourrait dire et tape qui ne force et force qui ne tape. Voilà, ça c'est bien gallo. Je suis pas sûr qu'on trouve ça dans une autre langue. Hein.
Qu'est-ce qui est spécifique au gallo qui est le plus intéressant?
Ah, le plus intéressant, alors là, chacun y trouve son intérêt, quoi. Mais bon, il y a un système phonétique particulier, il y a un système grammatical particulier. Ben, un truc qui est aussi qui relève de l'influence du breton, c'est le pronom personnel au pluriel, qui reste invariable. Même si c'est au féminin, les filles, quoi, par exemple, ben, il avance, quoi. Ça reste il, ça, voilà. Ça reste comme au masculin, quoi. En fait, c'est invariable. Quoi. En breton, on trouve ça aussi.
Donc, par rapport à l'avenir, du coup, de cette langue-là, enfin, du gallo, qu'est-ce que vous imaginez?
Ah, alors, bon. Il faut déjà parler de ce que je fais, quoi. Depuis que je suis en retraite, là, donc, avec un ou deux amis, on a créé ce qu'on appelle l'Académie du gallo. Alors, j'hésitais hein, au départ hein, pour ce titre-là, parce que c'est vrai qu'il y a l'Académie du français, c'est quand même un peu péjoratif, quoi. Et puis finalement, bon, je m'en fous, puisque vous avez un peu Académie de tout, maintenant on se dit, bon, bah, allez, on fait quelque chose autour de la langue, et puis voilà, quoi. Alors, pour vous dire tout ce qu'on fait, en gros, hein, on existe depuis septembre 2016. Ça fait quand même, ça va faire 7 ans cette année, oui. Alors, pour vous présenter un peu tout ce qu'on fait, on a par exemple publié des articles linguistiques qui traitent de la dérivation autour d'un thème, quoi. Par exemple, la roue, là, en gallo c'est la rue, donc je veux dire, on présente tous les dérivés autour de rue, quoi. Reuse, qui veut dire arqué, arreux, c'est-à-dire mettre en forme de roue les andins dans les. Dans le foin, dans les champs, etc., etc. On a traité tous les dérivés comme ça, donc on en a 32 comme ça depuis 7 ans. On a fait des traductions d'œuvres littéraires renommées mondialement, il faut le dire, quoi, hein, environ une page et demie hein, dans un roman de renommée mondiale, par exemple de Kerouac. On a traduit un petit peu un passage de Kerouac, de Zola, de Emily Brontë, vous savez, les Hauts du Hurlevent, Oscar Wilde, Alain Fournier, Edgar Poe, André Gide. Bon, c'est pas ça qui va relever la langue, je le sais très bien. Mais ça revalorise quand même l'image, quoi. Parce qu'on fait là quelque chose qui. Ben, que les gens pensaient que c'était pas possible. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, on avait traduit avec des amis, on avait traduit un Tintin, c'était l'île Noire, on l'avait traduit dans les années 90. Et on l'avait traduit en gallo, donc. Et comment je veux dire, j'ai entendu une anecdote comme ça, quelqu'un qui disait dans un café, il n'en revenait pas, pour lui c'était pas possible. C'était pas possible que l'île Noire avait pu être traduite en patois, mais non, je vous dis n'importe quoi, c'est pas possible. Et il était prêt à parier que ça ne s'est. Non, on lui racontait des conneries, quoi. Et pourtant, voilà, ça s'est fait, quoi. Donc, c'est dire à quel point la langue est quand même dévalorisée, quoi. Donc, je continue pour revenir actuellement. On a un dictionnaire en ligne de plus de 10 000 mots. On écrit des articles historiques sur les premiers souverains de la Bretagne. On a écrit des articles scientifiques, comment fonctionne un avion, qu'est-ce qu'il en est des sciences physiques, etc. On met en ligne aussi le travail d'un passionné de gallo là, qui avait aussi relevé dans le dictionnaire étymologique de Wartburg tout ce qui avait trait au gallo. Publie son travail.
Pour terminer, si vous aviez un souvenir de la langue qui vous reste, que ce soit avec votre grand-mère quand vous étiez petit, ou ensuite, enfin, un rapport vraiment, une intimité avec la langue, vous sauriez dire un peu, ou c'est trop abstrait?
Non, j'en ai pas en particulier, Par contre, il y a une anecdote que je peux raconter quand même, c'est un conteur du pays de Moron qui est décédé malheureusement maintenant, qui est décédé jeune d'ailleurs, il s'appelait Patrick Lebrun. Et il m'avait raconté ça c'était pas mal comme histoire. Et l'institutrice, c'était au printemps, quoi, au mois de mai, par là, et l'institutrice avait demandé aux élèves de ramener des digitales. Pas difficile, hein, à l'époque, il y en avait plein dans les... Il y en avait plein dans la campagne, quoi. Les digitales, maintenant, évidemment, pratiquement tout est détruit, on en trouve encore, mais ça devient un peu rare. Et donc, pauvre Patrick, lui, il était avec son copain, il dit, des digitales. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ils ouvrent le dictionnaire, oui, d'accord, digital, ils donnent la description, mais les descriptions dans les dictionnaires sont toujours un peu techniques, quoi. Donc ils n'avaient pas compris que c'était ce qu'était vraiment la digitale, quoi. Oh, ils disent, ah non, il n'y a pas de ça, c'est nous. Laisse tomber. Et le jour arrivé, tous les élèves, sauf eux, arrivent avec des digitales. Et alors la maîtresse qui leur dit, mais vous n'avez pas amené de digital? Et puis le collègue à Patrick qui répond comme ça, mais madame, mais si vous nous aviez dit que c'était des cotillons, mais on vous aurait amené des charrées, nous. Voilà. Non, il ne connaissait pas l'expression, il ne connaissait pas le mot français, quoi.
Vous êtes toujours à l'écoute de Logosphère sur les ondes d'Univers 99.9. À l'instant, donc, un entretien avec Patrick Deriano, un entretien réalisé par Léonie. De retour donc dans Logosphère. Il y a un second entretien autour de la langue galaise. Là, donc, c'était vraiment sur la dimension historique, on pourrait dire cela comme ça, de cette langue, de cet usage. Et tu nous proposes un second entretien avec Rosalie. Est-ce que tu pourrais nous présenter Rosalie?
Du coup, Rosalie, c'est ma grand-mère qui parle de moins en moins gallo, donc l'entretien est en français, et qui parle surtout plus gallo depuis que personne ne parle gallo autour d'elle. Donc tout est en français, il y a des mots quand même. Je pense qu'on sent quand même que ça, c'était sa langue, ça a été sa langue. Et du coup, ce reportage-là, c'est plus contextualisé, le rapport, pour se remettre en fait dans le contexte historique de ce que c'était de la Haute-Bretagne dans les années 50 et la vie en ferme et tout cet aspect-là en fait de la langue, quoi.
Eh bien, c'est parti. On va écouter donc cet entretien avec Rosalie que tu as réalisé pour Logosphère sur les ondes d'Univers.
Merci. Je te dis, moi, j'aurais fait un livre, j'en avais à dire, c'est un garantie, de toutes sortes de trucs. À l'école, tu vois, moi, j'étais timide. Hein. Eh bien... À ce temps-là, il y avait deux classes. Quand la scène de la grande classe, elle allait dans l'autre, elle mettait une fille à surveiller les autres. Et puis, bon, ouais. Moi, j'étais bonne pour faire ricaner les autres. Quand elle lisait, je l'ai touchée comme ça. Elle arrêtait de lire. J'étais méchante, hein. Je la faisais rire. Oh. Et bien, ce jour-là, je monte sur mon banc, debout. En arrivant, là, celle qui surveillait, « Rosalie Boyau, la montée sur son banc !»« Pas possible !» qu'a dit la bonne sœur. Parce que j'étais tellement timide et puis réservée qu'elle n'aurait jamais cru que je pouvais faire ça. Tu vois, il y a des vis cachées. Oh, mon Dieu, la vie de l'école aussi. C'est plus la vie maintenant. La première fois qu'on a vu un auto, nous, au Grand-Bois, il y a un marchand de chevaux qui vient, et puis je sais pas quoi, il veut vendre son auto. On achète l'auto, pas de permis, rien. J'avais un cousin qui travaillait chez moi. Un jour, un dimanche, Emilie dit « Oh, on irait bien au Poma. » Eh ben, moi j'étais enceinte en plus. Nous voulions monter dans la bagnole. C'est une espèce de, comme des tractions. Il était en, je sais pas, moi j'y connais rien, en première ou en deuxième, en première. On arrive auprès du cimetière, il dit ça y est, je trouve la deuxième. Et puis nous voilà partis, on a Topoma. Quand on est revenu, ma mère, elle nous regarde, elle dit ils vont se tuer en s'en allant. Pas de permis, pas avait pris de leçon, et il a conduit, on est à Topoma. Tu te rends compte? Ça n'existe plus, ça, hein? Oh. Non, j'aime pas, moi. Crois-tu qu'on avait la trouille? Ben non. Monter dans une auto avec quelqu'un qui n'a jamais conduit. Pouh. Moi, tu vois, j'ai eu de la chance. Quand j'étais jeune, les propriétaires de la ferme de mes parents, il était avocat, lui. Il avait plusieurs fermes dans le coin. À cette époque-là, ben, tu fournissais, en plus de payer ton loyer, tu mettais tant de volailles, tant de ci, tant de ça tous les mois. Mais on était quand même bien vus, on les invitait à manger. La fille, leur fille, il n'y avait qu'une fille, elle avait des beaux vêtements. Je me rappelle, j'avais une robe, c'était une robe en velours noir, qui avait des volants larges comme ça, des volants, et puis le haut en soie de blanche, puis la petite veste. Je ne voulais pas la prendre, parce que j'avais honte. Honte d'avoir des tenues que personne n'avait, des tenues de riches, des chaussettes en fil, qu'on avait des bas, nous, on n'avait pas le droit d'avoir des chaussettes. Une grande boîte de bas qui avait des petites baillettes aux côtés, ben c'est pareil, je ne les ai jamais mises. Parce que ça ne se faisait pas. Tu avais honte, tu vois. C'est comme si tu es bien que tu es mal habillé. Mais personne n'avait l'électricité dans la commune de fermiers. Et nous, on l'avait. Et on l'avait que dans les maisons. Et mon cousin, tu vois, il n'a pas l'école, il n'a pas de l'école depuis 12 ans. Il savait monter l'électricité tout seul. Il a monté l'électricité dans toutes les étapes, partout, sans personne. Il montait aux pieds, tu sais, les pieds de granit, là, les pieds d'électricité, quand on a des marches. Ben, quand on n'avait pas, parce que ça y arrivait que sur un fil, il n'y avait pas d'électricité. Alors, il mettait un fil, il montait au poteau, il arrêtait puni drôlement dur s'il avait su ça. Il mettait un fil pour voir s'il y avait un contact. Puis il mettait un fil accroché et on avait de l'électricité.
Et comment vous gagniez de l'argent? Vous vendiez quoi?
Des veaux, le lait, le beurre. Il y avait une marchande de Rennes qui passait toutes les semaines chercher le beurre, faisait des gros mottes de beurre comme ça.
C'était toi qui le faisais?
Ben oui, moi j'ai fait du pain, moi. J'étais jeune, pas mariée, j'étais jeune. Ma mère est boulangère, elle avait un mets qu'on appelle un grand meuble. Elle faisait la farine le vin le soir, puis le lendemain, ben, il fallait prendre le pain, la pâte, comme ça, pour la battre, mais longtemps. Tu avais mal au dos, hein, t'en pouvais plus. C'était du boulot de bonhomme, ça. La veille, on le mettait dans des bignots, on appelait, on les laissait lever, et puis le lendemain, on les mettait sur une palette et on allait les mettre au four. Ils étaient bien dorés, on avait pour 8 jours. On mangeait du pain 8 jours.
Vous aviez quoi comme animaux à la ferme?
Les chevaux, les cochons, les lapins, les poules.
Des vaches?
Oui. Oui, moi j'étais prête. Le soir que j'ai accouché, j'ai tiré mes vaches. C'était dangereux de se mettre sur une petite sellette pour traire. Il y a une, c'est pas longtemps avant, tu me fous un bon coup de pied, ben, tu voles avec, tu voles dans le table avec le seau que tu avais, tout, un bon coup de patte directement, tu n'avais pas les toucher. Oh, je voulais me voler, je vais vous dire, je ne sais pas comment ça progressait.
Mais vous en aviez combien?
Hein?
Vous aviez combien de vaches?
Oh, ben, c'était pas l'époque d'Aster, maintenant. Tout en herbe, c'était du blé qu'on faisait. Il n'y avait pas, je sais pas, une dizaine.
Et vous leur donniez à manger du blé?
Non, on le vendait.
Le blé?
Le blé, quand il était sec, on le vendait.
Et vous leur donniez à manger quoi?
Bah du trèfle, de l'herbe, des choux, de la luzerne, des betteraves. Fallait travailler tout ça. Moi, ce qui me rappelle, c'est les poules. Les poules grises. On n'en voit plus de ces poules-là. On voit que des jaunes ou noires. C'était des poules gris clair. Elle allait faire des... Quand c'était la saison qu'elle pondait, des nids dans les haies. Elle faisait une douzaine d'œufs. Elles sont pas bêtes, hein. Puis elles se ramenaient. On disait, ça y est, en voilà une qui se ramène des petits poussins. Parce que ça s'en aimait. Quand elles pondaient, qu'elles couvaient, qu'elles sont sur un nid, tu les mets des œufs, elles vont les couver, elles savent tant de jours. Et puis sur les petits poussins. Tandis que là, elle allait dans la haie. Elle faisait pourtant pas beau temps. Hein. Elle faisait ses œufs et puis elle se ramenait, c'était rigolo, avec là, toute la nichée de petits poussins derrière elle. On appelait ça les poulets d'aie. C'est pour ça que...
Les comment ?
Les poulets d'aie. C'est pour ça que dans le temps... Quand il y avait un qui tenait, une personne qui tenait d'un autre dehors de son mari, que c'était d'un autre bonhomme, et bien toute sa vie, il apportait le nom, c'est un pouladet. C'était pas marrant de se faire appeler un pouladet. Ah, c'est un pouladet. C'est dire, c'est un poulet d'une autre personne. Ça. Quand il y avait des bonnes qui travaillaient chez des patrons, comme ça je travaillerais chez un patron. Jour ou l'autre, le patron il te coince. Et puis bon, ben, ils ont beau faire attention, ça arrive des enceintes.
Comment tu dis ça? Tu dis le patron il te coince comme si c'était une évidence.
Mais parce que c'était souvent du patron et puis il faisait un peu ça par sur le commis qui travaillait.
Voilà, c'était un entretien avec Rosalie de Léonie. Merci Léonie pour cet entretien, ces entretiens réalisés pour Logosphère. Merci à toi.
De rien.
Vous écoutez Univers FM 99.9. On continue avec la programmation musicale d'Univers, tout simplement sur le 99.9 et le www.radio-univers.com. Salut.
Au revoir.